89.4. Barbizon. 6 au 141 rue de Tolbiac, à Paris 13, le Barbizon retourne à ce silence qu'une bande de joyeux lurons était parvenue à rompre en procédant à sa réouverture en 2002. Né dans le plein essor des salles de cinéma à Paris entre 1905 et 1914 environ, rebaptisé le Family Cinéma, puis le Barbizon, il a été ouvert sans discontinuer de 1911 à sa dernière séance le 23 mars 1983. Pendant 20 ans, il est resté fermé, alors que la ville de Paris manquait cruellement d'espace où puisse s'exprimer une culture qui ne soit pas muselée par les nécessités de la marchandise. Après son ouverture en fanfare, une association, les Amis de Tolbiac, milite pour sa sauvegarde et organise de manière entièrement autogérée des séances de cinéma, des débats et rencontres, des pièces de théâtre, des expositions, des concerts et de nombreux événements festifs. Rapidement, elle reçoit le soutien d'associations, d'habitants du quartier, d'artistes et de certains élus de la mairie d'arrondissement. On assistait là à une véritable renaissance de ce cinéma chargé d'histoire. Devenu au fil du temps un lieu de convergence et d'échange où se croisaient des individus aussi divers que variés, issus de tous les horizons sociaux et culturels, le Barbizon instillait un peu de bonne vie dans une ville rendue presque atone par une certaine politique et ses seconds couteaux. En tant qu'alternative à l'atrophie des intelligences que le spectacle organise depuis des décennies, le Barbizon n'était pas seul. Plusieurs autres lieux alternatifs officient aussi dans Paris et sa banlieue. Chacun d'entre eux a ses spécificités, son style, ses domaines de prédilection et probablement ses défauts. Mais ils ont aussi en commun une forte créativité qui se déploie en marge de la culture, avec un C majuscule, assise et muséologique. En marge aussi de cette culture de l'ennui qui tente de réanimer les rues exsangues, les rues que le petit peuple de Naguère faisait chanter sous ses pas de danse. En marge enfin des bouffonneries médiatiques et autres opérations marketing, dont l'indigence n'a d'égal que la pauvreté des contenus. Nombre d'entre eux sont déjà tombés avant le Barbizon. D'autres risquent de subir le même sort après lui. Oui, une certaine politique fait son grand nettoyage préélectoral au Karcher. Elle veut faire place nette sur l'Agora pour y installer ses imposants tréteaux de foire et ses vendeurs à la criée. Elle veut être la seule à s'exprimer sur la société au sein de laquelle nous vivons et agissons. Et s'il doit y avoir un point de vue culturel sur les questions de société, elle aura recours à sa clique de cultocrates dûment appointés pour l'exprimer. Va voter et tais-toi ! Dès lors qu'une certaine politique rêve depuis déjà longtemps d'une société lisse et homogène, pacifiée et docile, dès lors que son pendant économique anéantit la formidable diversité des formes que prend la vie, dès lors que sa myriade de technocrates transpose ce programme d'appauvrissement à nos légumes et à nos fruits, il semble possible qu'elle cherche à en finir avec la diversité socio-culturelle qui échappe encore à son contrôle. La chute du Barbizon et des autres n'est qu'un moment de cette longue entreprise d'éradication de toutes les mauvaises herbes. Mais ils sont tellement ignares qu'ils ne comprennent toujours pas que les mauvaises herbes sont tenaces et reviennent, quoi qu'on fasse, car elles participent du génie de la vie.
Vous êtes bien sûr Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Vous êtes également dans l'émission Les Amis d'Orwell, émission quinzomadaire dédiée à l'information sur les nouvelles technologies et le contrôle social. Émission qui aujourd'hui va aborder le thème de l'ADN, du fichage ADN, avec un copain, Yann, des déboulonneurs. On vous expliquera, bonjour Yann déjà.
Bonjour.
Bonjour à tous aussi. Bonjour Claude et bonjour Denis à la technique, qui vous a lu donc un texte sur le Barbizon. Barbizon qui, on a peut-être oublié de le préciser d'entrée de jeu, a été fermé mercredi 18 octobre dernier et en deux heures, à partir de 7h20 du matin mercredi dernier, 3 ans de boulons ont été murés et saccagés par les forces de l'ordre. Cela dit, le Barbizon n'est pas tout à fait mort, et on espère pour lui. Et il y a un certain nombre d'activités qui sont en train de se développer autour de ce mur, hein, puisque désormais le Barbizon est muré. Et on vous invite à aller voir sur le site internet du Barbizon les activités diverses qui sont en train de se développer, et c'est le site, c'est www.barbizon.org. Voilà donc les amis d'Orwell, émission aujourd'hui destinée au fichage ADN avec encore une fois Yann des Déboulonneurs, et on aura tout à l'heure en direct mais de Douai, si la technique fonctionne, Benjamin de Seninck, donc qui est un paysan de la Confédération paysanne de la CNT, enfin on lui posera la question exactement tout à l'heure, qui avait également refusé de donner son ADN à la suite d'un fauchage de champs d'OGM, et qui est un Douai pour le procès d'un autre copain de la Confédération paysanne qui se tenait en début d'après-midi. Voilà pour l'émission d'aujourd'hui. Avant cela, on va essayer de vous faire une petite revue de presse rapide sur l'actualité donc des nouvelles technologies et du contrôle social au sens large du terme. En commençant par le lancement des Big Brother Awards. Donc le Big Brother Awards, c'est une émanation de l'association Privacy International. Enfin, du moins, ça se place sous l'égide de Privacy International. On en est à la 7e édition. Le Big Brother Awards a pour but de primer les meilleurs élèves du tout sécuritaire. À savoir qu'il y a 5 prix qui sont l'Orwell de l'État et des élus, l'Orwell des entreprises, l'Orwell des localités, l'Orwell du Novlangue, l'Orwell pour l'ensemble de son œuvre. L'année dernière, c'était Nicolas Sarkozy qui était primé. Et il y a un prix Voltaire qui est décerné chaque année pour les associations, organisations, syndicats, etc., qui luttent le plus activement pour la préservation des libertés individuelles et collectives. On vous invite à aller sur le site donc des Big Brother Awards, qui est http://bigbrotherawards.eu.org. Tout cela pour si vous avez des dossiers à faire passer, vous pouvez inscrire votre maire s'il a installé un système de vidéosurveillance, ou votre patron s'il a installé un système biométrique par exemple dans son entreprise, pour que le dossier soit analysé et éventuellement primé. Voilà pour les Big Brother Awards. Donc la cérémonie se tiendra le samedi 20 janvier prochain à Confluence, Maison des Arts Urbains, au 190 boulevard de Charonne, dans le 20e métro Alexandre Dumas. Sinon, pour continuer dans cet esprit-là, il y a une campagne anti-taser. Alors, le taser, c'est ce nouveau flingue qui lance des décharges de plusieurs milliers de volts sur les individus. Alors, c'est largement répandu aux États-Unis. A priori, c'est en train de se développer aussi en France. Et dans ce cadre-là, il y a le RAID, donc c'est le réseau d'alerte et d'intervention pour les droits de l'homme, qui lance une campagne de pétition contre l'utilisation de ce flingue nouvelle génération. Pétition que vous pouvez trouver sur le web ou sur le www.raidh.org. Voilà pour le taser. Sinon, beaucoup d'actualités, malheureusement, si je puis dire, comme toutes les 15 jours. On a été informé par Francis Marmand dans Le Monde du 18 octobre dernier d'un nouveau système d'espionnage grand public qui s'appellerait El Tranquilizador. En espagnol dans le texte, donc le tranquillisateur, qui serait une espèce de GPS amélioré permettant à tout un chacun de pouvoir fliquer pour moins de 100 euros les situations diverses et variées. Alors dans l'ordre, on va citer l'absence d'un enfant, celle d'un proche atteint d'Alzheimer, la peur d'un chien ou la peur de se faire voler sa voiture, etc.
Qu'est-ce que c'est qu'un GPS pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est?
Le GPS, c'est un système de navigation qui est installé sur un certain nombre de voitures, a priori plutôt... plutôt moderne, donc et qui permet nous, enfin le l'idée principale, c'est de pouvoir se repérer, enfin de pouvoir se repérer dans les rues d'une ville ou dans un pays tranquillement, sans avoir déplié sur le tableau de bord une carte Michelin ou autre.
C'est un système par satellite.
Voilà, c'est un système par satellite qui
où notre position est révélée sur l'écran même.
Voilà. Et où a priori le flicage est d'autant plus simplifié pour pas puisque ça fonctionne par GPS. Donc quelques petites brèves également en termes d'application de la loi. On a eu des brèves sur internet, notamment sur nouvelops.com et libération.fr. On apprend qu'un jeune homme de 24 ans sans casier judiciaire a été condamné à un mois de prison ferme pour avoir uriné sur un distributeur de billets de banque à la suite d'une soirée a priori plutôt arrosé. Donc ce sont des faits qui se sont déroulés à Tréguinc, à côté de Quimper, puisque c'est près de Concarneau, pardon, dans le Finistère, et c'est le tribunal correctionnel de Quimper qui a infligé ce mois de prison ferme et 1 500 € d'amende. Alors comment on a retrouvé le jeune homme en question qui a pissé sur le capital, par la caméra de vidéosurveillance qui était placée au niveau du distributeur de billets de banque. Alors vous avez souvent, vous avez dû voir sur un certain nombre donc de DAB, de distributeurs, des espèces de petites boules rondes noires qui sont en fait des caméras, donc qui sont là pour vous pour empêcher que vous fassiez voler, mais bon, pour aussi vous arrêter et vous emprisonner si jamais vous viendrez la lubie de pisser sur l'argent. À Grenoble, ça a été du ferme aussi pour 5 garçons qui ont été accusés de vol en réunion avec violence. En fait, il s'agissait d'incivilité. Et ce qui est intéressant, entre gros guillemets, dans cette histoire-là, c'est que c'était des jeunes gens qui étaient a priori connus des services de police, qui, toujours à travers les images d'une caméra de vidéosurveillance, ont été repérés dans une boulangerie à malmener, rudoyer, on va dire, le boulanger, et à piquer des croissants, quelques viennoiseries et quelques canettes. Donc l'idée, c'est que on a importé et a priori donc sont en train de tomber les premières condamnations. Cette idée d'outre-Atlantique qui avait pour but de taper fort au bout d'un certain nombre de d'incivilités ou de crimes ou de délits entre guillemets toujours repérés. Donc c'était Clinton, si je me souviens bien, qui avait fait passer une loi de ce type-là, ou alors donc au bout de trois condamnations, la personne prenait du ferme, même si c'était pour un vol de pommes. Voilà, donc ça commence effectivement à s'appliquer en France. Quelques news aussi diverses et variées sur l'apprentissage du vélo, par exemple.
Oui, c'est donc le mensuel CQFD qui rapporte donc une loi de 2006-11 du 5 janvier 2006. Appliqué depuis le 1er juillet, institue l'interdiction d'apprendre à faire du vélo sans les petits trous. Voilà, donc c'est le journal marseillais CQFD qui apporte cette intéressante nouvelle.
Bah oui, puisqu'on nous dit comment il faut apprendre à faire du vélo à nos enfants. On va voir les prochaines mesures qui vont être prises, je sais pas, pour leur apprendre à nous donner la bouillie peut-être. Avec des cuillères métalliques pour leur apprendre à avoir des... je sais pas.
Dans le même ensemble de lois, il y a une disposition qui interdit de faire connaître les propriétés de produits phytosanitaires naturels s'ils ne sont pas homologués. Et donc des gens qui distribuent des recettes donc non homologués reçoivent la visite des flics. J'ai l'impression que ça a fait plus de bruit que l'affaire des petits trous. On en a en plus entendu parler.
Ouais, notamment cette bouillie de
d'ortie,
oui. Ouais. Qui effectivement, il y avait un livre qui était sorti à propos de ça et qui avait été interdit puisque, il y avait un certain nombre de lobbies qui avaient agi contre et qui avaient réussi à faire interdire cet ouvrage. Pour continuer là-dedans, il y a un nouvel, l'INSERM a commis un nouveau rapport sur le thème troubles cognitifs et obésité, où effectivement on apprendrait que l'obésité provoquerait des troubles donc cognitifs. Juste pour dire que il me semble, ça en rentre tout à fait dans l'optique d'une répression qui évite très soigneusement de préciser pourquoi les gens, par exemple, sont obèses. On a appris cette semaine qu'il y avait aujourd'hui sur la Terre plus de personnes obèses que malnutries et personnes obèses que l'on retrouve largement dans les populations les plus paupérisées. Alors bon, effectivement, les gens qui n'ont pas accès forcément au bio, aux légumes frais et aux fruits frais, etc., vont bouffer toutes les saloperies qu'on nous propose, qui sont pleines d'acides gras, d'huiles essentielles, etc. Et donc, a priori, l'INSERM, qui avait déjà commis ce rapport sur les troubles mentaux des enfants de moins de 3 ans, s'attaque aujourd'hui aux obèses. À signaler également que en décembre prochain se tiendra les premières assises nationales de la vidéosurveillance urbaine. Les collectivités et les entreprises se mobilisent autour de la vidéosurveillance dans les villes. Ça se tiendra à Nice les 13 et 14 décembre prochains. Et donc c'est pour apprendre un peu, pour que les maires qui ont vidéosurveillé leur ville, mais qui sont un petit peu craintifs par rapport à l'utilisation de ce type de système, puissent échanger entre les différentes techniques, blablabla. Alors à savoir que l'association des maires de France, l'AMF, était une association, je crois, qui est plus ou moins une annexe de l'UMP et qui fait largement pression sur les différentes municipalités pour qu'ils puissent passer ce type de système qui devienne de plus en plus une espèce de packaging. Enfin, ça devient une espèce de passage obligatoire quand on veut se faire réélire, puisque la sécurité est, tout un chacun le sait, la grande préoccupation des Français avant le chômage, la précarité, etc. Donc tout bon maire qui se respecte est obligé de faire passer, de mettre des armes à sa police municipale, d'installer des caméras de vidéosurveillance. Et là où on rentre dans du grand Père Ubu, c'est quand on nous précise que la vidéosurveillance a été prouvée comme moyen de répression clair, efficace, etc. Quand on voit que quand on se souvient qu'en 2005, en février 2005, le département des statistiques anglais avait sorti un rapport sur l'efficacité des caméras de vidéosurveillance et qui prenait complètement l'inverse, qui disait qu'effectivement sur 13 lieux vidéosurveillés sur lesquels avait tablé ce rapport, il y en avait en gros 11 complètement inefficaces, un dont on ne pouvait pas affirmer que c'était l'action de la vidéosurveillance qui avait fait reculer les actes de délinquance ou de criminalité, et il en restait un seul qui pouvait être effectivement un lieu compris comme étant un lieu vidéosurveillé et pour lequel la vidéosurveillance avait reculé, les actes d'incivilité et de criminalité avaient reculé à cause de ça ou grâce à ça. Donc en gros, le département des statistiques anglais était clair de ce point de vue-là. Il n'y avait pas grand-chose à espérer de la vidéosurveillance, mais on l'avait précisé il y a quelques temps en arrière. Par exemple, l'éclairage public était un moyen beaucoup plus efficace pour faire reculer effectivement les incivilités au sens large du terme, par exemple. Voilà, juste pour peut-être pour préciser un dernier petit point, une revue qui s'appelle À contre-courant syndical et politique, qui a fait un gros dossier. C'est une petite revue, donc par rapport à la revue, c'est un gros dossier sur le thème du World Wide Web, nouveau paradigme technosocial, qu'on vous engage à lire. Donc c'est un article de Daniel Lopréno, enseignant et membre du syndicat SSP de Genève. On reviendra certainement dans une émission future sur la thématique du flicage et du contrôle sur Internet. Ça est en train de s'activer un peu sur Google en ce moment, puisque après la banque, la bibliothèque universelle, il s'attaque à la diffusion de l'information au sens large du terme. Donc on y reviendra certainement d'ici à quelques temps. Une petite musique peut-être ?
Oui, avec les joyeux urbains, quand je serai grand.
Lors de mon premier jour d'école, ma maîtresse n'a pas aimé quand elle nous a posé une colle sur la petite fiche de la rentrée. Direct sans détour, dès le départ, elle a osé nous demander que voudriez-vous faire plus tard sans hésiter, j'avais noté. Quand je serai plus grand, je serai dictateur. Menteur, voleur, sans cœur, arnaqueur, bon parleur. Et si je n'arrive pas à mon bonheur, alors je serai ministre de l'Intérieur. Elle m'a répondu aussitôt, après avoir lu cela. C'est pas possible, Benito, qu'est-ce que tu me racontes là? C'est mal, c'est méchant, c'est vilain, ça ne peut pas être ton but. Je l'ai regardé d'un air hautain, et puis je lui ai répondu. Quand je serai plus grand, je serai dictateur. Menteur, voleur, sans cœur, arnaqueur, beau parleur. Et si je n'arrive pas à mon bonheur, alors je serai ministre de l'Intérieur. Dans le secondaire, c'était idem. Personne ne respectait mon choix. Quand je leur disais c'est le métier que j'aime, tout le monde se foutait de moi. C'était fini, c'en était fait, j'ai gardé leur nom en mémoire. Ça peut servir, on sait jamais, je pourrais peut-être me venger plus tard. Quand je serai plus grand, je serai dictateur. Menteur, voleur, sans cœur, arnaqueur, beau parleur. Et si je n'arrive pas à mon bonheur, alors je serai ministre de l'Intérieur. Pas d'ascenseur pour les fachos, pas de débouché pour les tyrans. Par dépit, j'ai pris l'autre lot, je suis entré au gouvernement. Ça y est, je vais pouvoir devenir dictateur. Menteur, voleur, senteur, arnaqueur, beau parleur. Je vais enfin accéder à mon bonheur lorsque je serai ministre de l'Intérieur.
Ça y est, je vais pouvoir devenir dictateur, menteur, voleur, sans cœur, ordinateur. J'ai enfin accédé à mon bonheur. Lorsque je serai ministre, lorsque je serai ministre, lorsque je serai ministre, ministre de l'Intérieur.
Fédération anarchiste 89.4 Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Vous êtes bien dans l'émission Les Amis d'Orwell. Et donc on va parler d'ADN aujourd'hui avec Benjamin de Seninck, qui donc a été poursuivi pour refus de donner son ADN. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Voilà, donc on va essayer.
On espère que la liaison passe bien au niveau téléphonique. Donc voilà, en fait, je crois que déjà tu peux peut-être nous donner quelques petites informations puisque tu étais à Douai aujourd'hui pour le procès donc d'un autre copain qui effectivement avait refusé également de donner son ADN. Et donc dans ce cadre-là, vous avez décidé non seulement de monter un site internet sur lequel on va revenir tout à l'heure, mais peut-être que vous avez déjà eu des informations par rapport au procès.
La grosse mobilisation sur Alès avait permis effectivement d'avoir un rapport de force assez efficace. Et donc moi, je n'avais pris que 500 euros. Et aujourd'hui, le tribunal de Douai s'est rangé sur cette jurisprudence. Et donc, il n'a requis que 500 euros pour Bernard Coquel. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, là, on pense que les mobilisations importantes de l'été ont payé. Le fait de dénoncer cette loi qui permet à un simple policier d'aller ficher n'importe qui est passé effectivement comme relativement choquante, voire révoltante dans la population. Et aujourd'hui, il semble que les tribunaux suivent à un moment donné le mouvement qui est en train de se mettre en place. Donc 500 euros aujourd'hui, c'est assez positif. Et nous, on considère déjà que la loi est en partie caduque, du fait que on va se retrouver sur une problématique. Soit on donne son ADN, soit on donne 500 euros. Ce qui est très différent de ce qu'on nous dit dans les gendarmeries, où on nous dit vous allez prendre 15 000 euros d'amende et un an de prison ferme.
D'accord. Par contre, sur on avait cru comprendre que le fait que le tribunal réclame 500 euros ne supposait pas la fin de la procédure, mais supposait que ça continue, en fait, qu'il y ait des procès systématiques jusqu'à ce que l'individu décide de donner son ADN.
Alors ouais, ça va plus loin que ça, en fait. C'est-à-dire que la procédure qu'ils ont entamée aujourd'hui, à mon encontre, c'est une procédure qui est définitivement politique. C'est-à-dire que je suis un militant libertaire, et aujourd'hui, ce statut pose problème. Donc effectivement, moi, avant le rendu de mon jugement, donc en septembre, on a eu le procureur d'Alès qui a déclaré que de toute façon, il me reconvoquerait pour un nouveau prélèvement et que je repasserais au tribunal dans un cadre de récidive et que je finirais au trou, selon sa formule. Donc là, effectivement, c'est la deuxième bataille. C'est-à-dire que pour un individu lambda qui refuse un prélèvement ADN dans une gendarmerie, a priori, le verdict, c'est 500 euros. Après, la deuxième étape, c'est que pour les politiques, et qui dérangent effectivement l'État, et je pense aussi aux individus qui dérangent l'État de par leur classe sociale, effectivement, on voit un nouvel acharnement juridique. C'est-à-dire qu'on résout ça sur, comme pour l'insoumission au service militaire. Dire, on vous convoque pour un prélèvement ADN, vous refusez, vous prenez un procès, vous êtes condamné. Bon, la justice a dit pour moi 500 euros pour le refus. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où de toute façon, je suis de nouveau reconvoqué. Donc la finalité, effectivement, de ces procès, c'est directement de me mettre au trou selon la formule du procureur d'Alès. Donc ça, effectivement, c'est la partie de toute façon de la loi qu'on dénonce, c'est-à-dire le caractère arbitraire, le pouvoir s'est donné les moyens de poursuivre n'importe qui jusqu'à ce qu'il ait satisfaction, c'est-à-dire qu'on retire l'individu de la société en le mettant en prison.
Oui, mais en fait, la finalité, c'est pas tant de donner son ADN que de rendre inefficace, enfin, donc de mettre au trou effectivement les personnes les plus remuantes entre guillemets. Mais ça,
ça fait partie du projet, du même projet en fait de société. C'est-à-dire qu'on veut éliminer à terme toute la contestation, et pour ça, on emploie plusieurs moyens. Il y a d'abord un moyen de fichage, dans un premier temps, qui permet de contrôler les populations, et dans un second temps, d'appliquer des répressions aux gens qui font partie ou qui sont susceptibles de faire partie de ce fichier-là. C'est le même mouvement.
D'accord. Et par contre, donc c'est bien une volonté unique du procureur, et ce n'est absolument pas inclus dans la loi le fait de ces poursuites systématiques.
Non. Alors, ce que dit la loi, c'est que toute personne ayant commis un délit ou supposé capable de commettre un délit, c'est-à-dire tout le monde, peut se voir fiché génétiquement. Or, les poursuites sont au libre arbitre, soit du procureur, soit du policier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette systématisation-là des poursuites, on ne sait pas encore à qui elle va être appliquée. Ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'elle va être appliquée aux politiques, c'est mon cas. Après, est-ce qu'elle va être appliquée à la petite délinquance ou autre, ça on ne peut pas le dire encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, c'est surtout un moyen juridique de poursuivre un individu et de ne plus le laisser tranquille. Quoi. C'est surtout ces moyens juridiques-là qu'on a donné aux forces de l'ordre.
D'accord. Et dans ce cadre-là, est-ce qu'il y a, on va revenir un peu sur le site que vous avez lancé, donc qui est le http://refusadn, tout attaché, donc refusadn. .free.fr. Donc ça, c'est le site donc d'information et de recensement des différents cas d'individus se voyant poursuivis par la justice pour refus d'ADN. Et dans ce cadre-là, est-ce qu'il y a des soutiens de la part du syndicat de la magistrature, du SAF, etc. Est-ce qu'il y a un début de prise de, sinon de conscience, du moins d'engagement de la part des magistrats et des avocats, etc. ou
Alors, il y a un engagement clair hein, du syndicat de la magistrature, qui a d'ailleurs été une des seules organisations à dénoncer la loi au moment où elle est sortie. Et aujourd'hui, ouais, ils nous soutiennent complètement. Maintenant, sur la démarche du comité refus ADN, on est sur une base libertaire, voire autonome. C'est-à-dire que on a demandé aux organisations de soutenir, mais de soutenir en tant qu'individu. C'est-à-dire que chaque individu dans l'organisation détermine si oui ou non il soutient. Éventuellement, l'organisation peut se prononcer pour, mais on ne peut pas rentrer dans un jeu d'organisation qui dirige un comité, etc. C'est-à-dire que nous, on prend tous les soutiens qui sont les bienvenus, mais à un moment donné, et le site est conçu comme ça, c'est-à-dire que ça va être auto-alimenté par les gens. C'est-à-dire que l'espace, on l'a conçu de telle façon que on va indiquer tous les procès qui sont en cours. D'ailleurs, là, je pense qu'on en a fait un nouveau qui va arriver sur Lille pour un jeune qui s'était fait interpeller pendant le CPE. Et un autre sur Grenoble aussi qui a été convoqué la semaine dernière aussi pour le CPE. Et c'est les gens qui vont alimenter le site. C'est-à-dire que c'est les gens qui refusent les prélèvements génétiques qui vont donner leur déclaration, leur vécu par rapport à ça et leur motivation de refus en fait. Et par rapport au soutien des organisations, on est pour, mais par exemple on n'a pas demandé de communiqué de presse à la LDH parce que je pense que c'est pas l'objet de ce comité là de faire vitrine.
D'accord.
Sur les manifs par exemple, plutôt que d'avoir un communiqué de la LDH, nous on demande parce que les militants de la LDH ils rougent le cul un peu et qu'ils viennent effectivement devant les tribunaux parce que le débat il est vraiment à ce niveau là quoi. C'est pas, on le voit de toute façon, les procès où je suis passé à Alès et le procès d'aujourd'hui, il n'y a pas de débat dans le tribunal. C'est de toute façon, on a décidé que la peine serait donnée, mais par contre le débat il se fait à l'extérieur et sur vraiment le fait de refuser à un moment donné une atteinte aux libertés fondamentales et de rentrer en résistance. Ça je crois que ça ne peut se faire qu'à un niveau individuel et pas Ça m'étonnerait que la LDH décide à un moment donné de rentrer dans la résistance. C'est un peu ça la logique. C'est que les gens doivent aujourd'hui refuser et effectivement rentrer dans un mouvement de résistance qui est un mouvement actif.
Et aujourd'hui, au niveau de ce collectif, est-ce qu'il y a un recensement des, enfin, il y a un recensement. J'ai vu ça un peu sur Internet, mais on dénombre à peu près combien de cas similaires, et aussi, enfin, bon, par ailleurs, je te poserai la question de savoir quelles sont les revendications premières et ou secondaires du collectif.
Alors, eh ben, au niveau du nombre de personnes, depuis mon refus là en juin, on a enregistré, actuellement on doit être à 70-80 personnes qui sont en cours de refus. Donc tout n'est pas recensé sur le site parce qu'on attend les textes de motivation pour lesquels ils refusent, etc. Qu'on puisse donner un peu d'informations et puis les dates aussi. Mais effectivement, il y a beaucoup de monde qui a refusé. Et je crois que le mouvement va aller en s'amplifiant de façon importante, quoi. Parce qu'aujourd'hui, sur la base du fichier, on a 300 000 personnes et c'est vrai que les premiers cas de refus interviennent qu'à partir de cette année. Et ça fait déjà deux ans et demi que ce fichier est en cours d'application, quoi. Maintenant, au niveau des revendications, je pense qu'il y a autant de revendications que d'individus. Maintenant, il y a une base commune qui est claire. C'est déjà le retrait du FNAEG et le refus de fichage. Mais le refus de fichage de façon généralisée. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas uniquement à la problématique de l'ADN, on s'adresse aussi aux fichiers sur les sans-papiers, aux fichiers
loi,
aux STIC, mais aussi à tout ce qui est biométrie, à tout ce qui est vidéosurveillance. Et le mouvement, il est clair, c'est un mouvement de refus d'atteinte aux libertés, quoi.
D'accord. Est-ce qu'il y a, par exemple, je pense à deux cas, notamment, il y a eu un cas à Clairvaux, donc il y a deux ans, il y a eu une mutinerie à Clairvaux il y a deux ans. L'un des copains qui s'était mutiné, parce qu'il avait décidé de donner son ADN et l'administration pénitentiaire avait laissé comme carotte le fait que s'il donnait son ADN, il aurait des améliorations de peine, sinon une remise de peine, qu'il n'avait jamais vu venir. Et donc, c'était l'une des raisons de cette mutinerie. Est-ce qu'il y a des ponts qui ont été établis et est-ce qu'il y a par exemple des ponts qui ont été établis aussi avec, je crois que l'Assemblée Générale de l'Université de Montpellier qui durant le CPE avait établi comme base revendicative notamment la suppression de toutes les lois d'ordre sécuritaire, répressive, etc. remontant jusqu'à 95 et la première loi Pasqua, première loi qui mettait en place les systèmes de vidéosurveillance. Est-ce que vous avez déjà des contacts avec ce genre de réseau ou pas?
Oui, on bosse directement avec les gens de Montpellier, ça, il n'y a pas de souci. Et puis, par ailleurs, moi je soutiens personnellement les copains, les prisonniers politiques dans les tôles. On bosse aussi, il y avait des gens de l'Envolée au procès à l'Est, par exemple. Et ça, c'est évident aussi pour nous. Il y a la lutte à l'extérieur sur lequel on a enregistré plusieurs victoires. Maintenant, on n'oublie pas effectivement les copains qui sont dans les tôles, parce que tu parlais tout à l'heure de remise de peine. Si on acceptait le prélèvement ADN en prison, c'est le mouvement inverse qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu refuses de donner ton ADN en prison, non seulement tu prends un procès et puis une condamnation, là il y a un mec à Tulle qui avait pris deux mois ferme pour ça, et en plus on te supprime toutes les remises de peine que tu as pu avoir avant. Et donc ça, effectivement, là, on cherche effectivement des copains en tôle. On est en train de le faire, ça, pour qu'ils puissent témoigner aussi de cette réalité-là. Parce que en prison, on te donne pas le choix. C'est pas une remise de peine qu'on va te donner. C'est soit tu acceptes de donner ton ADN, soit tu refuses. Et dans ce cadre-là, on te supprime toutes tes remises de peine. Ça veut dire que si tu prends ferme pour refus de prélèvement génétique, c'est pas deux mois ferme que tu prends en plus. C'est deux mois ferme plus toutes les remises de peine, c'est-à-dire que pour les mecs, en général, ils prennent 12 à 24 mois ferme en plus, quoi, sur les peines. Donc là, effectivement, c'est un gros souci. Et nous, on n'oublie pas, dans nos préoccupations, de parler des copains qui sont en tôle. Il y a la lutte à l'intérieur et la lutte à l'extérieur, ça, c'est sûr.
Oui, c'est la loi, pour préciser, c'est la loi Perben 2 de 2004 qui avait introduit cette idée que qui refuse tout prélèvement d'ADN se voit supprimer toute réduction de peine. Est-ce que, juste pour conclure peut-être, est-ce que il y a des rendez-vous à donner et enfin sous forme de soutien au procès aux copains ou sous forme de conférences ou quoi
Ouais, il y a des rendez-vous il y en a qui sont précis, il y en a d'autres qui ne sont pas précis parce qu'on attend les rendus des tribunaux. Sûr déjà de fixer, il y a un procès le 13 décembre à Mâcon. Là, c'est une fille qui passe pour refus de prélèvement ADN suite à une présomption de consommation de cannabis. C'est-à-dire qu'elle avait des feuilles à rouler sur elle, les gendarmes l'ont chopée au poste en lui disant « Vous avez fumé du cannabis ?» Elle a dit « Non, ils ne sont pas démontés, ils lui ont collé un prélèvement ADN. » Donc ça, effectivement, et c'est ce qui est intéressant dans ce procès, c'est que ça montre que ça ne fait pas tout le monde, a priori, quoi. Donc je ne sais pas si on va se mettre à arrêter les vieux qui sortent de la foire au vin avec des bouteilles de pinard pour présomption de d'ivresse sur la voie publique, mais ça va peut-être arriver. Donc il y a le 13 décembre, et ensuite il y a un autre gros procès qui va arriver en février, qui sera le 12 et 13 février, je crois, à Orléans, où là on a 15 personnes qui sont des faucheurs OGM, donc certains des faucheurs volontaires, d'autres libertaires, et eux qui vont passer à 15 pour refus de prélèvement génétique. Donc il y a ces deux rendez-vous-là, et ensuite on devrait organiser un gros concert sur Montpellier pour populariser un peu le mouvement et faire savoir surtout, parce que le site on l'a monté et le collectif on l'a monté aussi, à la fois pour soutenir les gens qui passent en procès, mais aussi pour informer les gens sur le fait que ils sont susceptibles d'être soumis à un contrôle génétique s'ils passent dans un commissariat ou dans une gendarmerie, et que effectivement le refus c'est pas 15 000 euros et un enferme. Si on refuse, pour l'instant sur les jurisprudences, et aujourd'hui c'était intéressant aussi, c'est 500 euros. Donc nous ce qu'on envisage effectivement, c'est de diffuser cette information-là pour qu'il y ait un maximum de gens qui refusent, quoi. Faut voir qu'aujourd'hui c'est 300 000 personnes fichées à la FNAEG, dont 180 000 personnes qui n'ont commis aucun délit. Et donc le mouvement de résistance par rapport à ça, il se fera effectivement par des refus. Et par des refus politiques où on mettra un maximum de monde, quoi. Et ensuite on a d'autres procès sur Grenoble dont on n'a pas les dates. Là on aura trois procès. Donc un individu pendant le CPE, et ensuite on aura les contreplaquistes de Grenoble, et ensuite les copains qui se sont fait interpeller pendant les manifestations à Minatec.
D'accord. Bon, ben, est-ce que, juste peut-être une dernière question, les collectifs que vous appelez à créer, c'est des collectifs locaux ou c'est un collectif national, ou il y a déjà des collectifs qui se sont créés de ce point de vue-là, ou...
Alors, il y a des collectifs qui sont en train de se monter, on en a sur le sud de la France, sur le sud-est plutôt, sur Montpellier, Le Vigan, Alès, etc. Et c'est très simple, hein, on fonctionne directement en réseau, et sur Paris, s'il y a des gens qui sont intéressés par rapport à la question, nous on va se baser sur le site effectivement Refus ADN pour faire passer les infos, etc., et coordonner un petit peu. Et après ce qu'on appelle, c'est effectivement chaque personne et chaque groupe de personnes à se former en collectif plus ou moins informel, et à se regrouper, à faire de l'information par rapport à ça, c'est-à-dire notamment à tirer des tracts sur l'information par rapport à la FNAEG, et puis par exemple une des propositions d'action qu'on proposait nous sur le sud-est, c'est de façon systématique, quand on va dans les manifestations, on file des numéros d'avocats s'il y a des arrestations, c'est donné de la même manière un petit tract qui informe effectivement sur le contrôle génétique et qui permet aux individus de savoir ce qu'ils risquent s'ils sont arrêtés. Et ça devient une nécessité, et ça c'est qu'effectivement, s'il y a des gens qui souhaitent le faire sur Paris, on les appelle effectivement à s'organiser, éventuellement à prendre contact avec nous. Le mail c'est refusadn.free.fr, et donc là dans ce cadre là s'organiser de façon autogérée sur place pour faire de l'information et du bruit par rapport à ça, et effectivement soutenir les copains qui passent en procès. Mais il n'y a pas de direction nationale par rapport à ça, donc c'est pas notre volonté. Et d'ailleurs on n'a pas eu la volonté non plus de créer une association, c'est-à-dire qu'on fonctionne en réseau avec des individus qui sont intéressés pour résister par rapport à ces atteintes aux libertés, et nous on se lève par rapport à ça, mais on travaille en réseau avec les individus. Donc effectivement, s'il y a des copains qui veulent prendre le relais sur Paris et diffuser de l'information sur Paris, il y en a vraiment besoin, là on est prêt complètement à fonctionner avec eux, quoi.
D'accord. Merci Benjamin.
Merci à vous.
Et puis bon courage pour la suite.
Ça ira.
Au revoir.
Le champ est libre comme l'air, toujours le même.
www.free.fr. Alors, le site internet, c'est http://refusadn.free.fr.
C'est pire, comme ça craint le pire. Comme ça sert à rien de nous ralentir. Je peux encore vous surprendre, car aucune stèle sera assez grande pour qu'ils se branlent sur nos séquelles. Comme des pucelles, se rendent complices des parties de baltrape de la police. Pendant que ça sent sur peine de tous ces efforts, et que d'obscurs syndicats de porcs, en cas d'encombrant de bavure, invoque le coup du sort et nous convoque leur état-major. Pendant que la censure peine de tous ces efforts, et que d'obscurs syndicats de porcs, en cas d'encombrant de bavure, invoque le coup du sort et nous convoque leur état-major.
Bref, rien de bien nouveau sous le soleil. Les mêmes vieilles chiennes sur leurs vieilles piles d'oseille. Ces bonnes vieilles lois pour nos bons vieux trois rats. Un extra cette fois, un trophée ces derniers mois. Une portée de gorée s'est coincée entre les mailles de mon filet. Je l'ai même trouvé un code pénal à tranche dorée, expédié par voie d'huissier. Avec tous les bravos du 9 place Beauvau, le pompon, la cerise, je crois à ma plus grosse prise. Ça me changera des frises et de la bouillie pour chat. Concert aux grandes fêtes foraines républicaines. Ça m'inspire l'amour et la joie qui fait défaut à mes rengaines bien trop chargées de haine.
Pendant que la censure peine de tous ces efforts, et que d'obscurs syndicats de porcs, en cas d'encombrant de bavure, invoque le coup du sort et nous convoque leur état-major. Pendant que la censure peine de tous ces efforts, et que d'obscurs syndicats de porcs, en cas d'encombrant de bavure, invoque le coup du sort et nous convoque leur état-major.
Encore du rap de fils d'immigrés étrangers à leur code, pourtant si familier aux flics et à leur brutale méthode. Au rang des non-alignés, qualifiés d'infâmes diffamateurs, encore et trop d'honneur qui nous distingue des amateurs. C'est la rumeur, quatre têtes à abattre, que les censeurs se rassurent, y'a pas que la mesure qu'on va battre. 2004, plein de haine, même interdit d'antenne, des centaines de détracteurs au cul que mon son préoccupe. Chute ces braises pas éteintes qui crament dans leurs enceintes ou dans les plaintes de ces fils de timbre, assis au banc des accusés, puisqu'absent au banc des priorités, la parole arrachée par les minorités.
Pendant que la censure peine de tous ces efforts, et que d'obscurs syndicats de porcs, en cas d'encombrant de bavure, invoque le coup du sort et nous convoque leur état-major. Pendant que la censure peine de tous ces efforts, et que d'obscurs syndicats de porcs, en cas d'encombrant de bavure, invoque le coup du sort et nous convoque leur état-major.
Les amis d'Orwell sur Radio Libertaire 89.4, on parle aujourd'hui de fichage d'ADN et de refus, surtout de fichage d'ADN. On a eu Benjamin de Seninck, donc au portable tout à l'heure, qui est donc un paysan qui avait refusé de prélever son ADN suite à un fauchage de chiens d'OGM. Et donc aujourd'hui, on est sur le plateau avec Yann des Déboulonneurs, qui va nous faire état de ses propres mésaventures avec les forces de l'ordre.
Tout à fait. Bonjour, bonjour à tous et à toutes et à tous, pardon. Voilà. Donc, Benjamin a très bien résumé les choses, hein, je pense, sur le processus judiciaire et sur les derniers développements en cours dans le domaine du fichage ADN. Donc moi j'ai pas grand chose à rajouter. Je pourrais juste mentionner mon expérience en fait, donc qui s'inscrit dans l'action des déboulonneurs. Donc c'est sur la dernière action en fait qui avait lieu le 29 septembre. On a été sept interpellés.
On peut peut-être préciser juste vite fait pour les gens qui ne savent pas ce que sont les déboulonneurs.
Oui. Oui, tu as raison. Alors,
on a reçu ici un des représentants, enfin un militant des déboulonneurs longuement, mais il faut redire effectivement ce que c'est.
Voilà, il s'agissait d'Ivan Gradis, et donc les déboulonneurs, bon, c'est un collectif qui a été fondé à l'automne 2005 en fait. Donc il s'agissait d'élaborer une stratégie en fait pour pour dénoncer la mainmise du système publicitaire sur l'espace public, sur à la télé, dans les médias, dans nos vies en général, et donc élaborer une stratégie qui permettait justement de créer une brèche pour mettre sinon un coup d'arrêt, au moins mettre le système publicitaire sur la sellette et le faire tomber un petit peu de son piédestal. Voilà. Donc ce sont des actions répétées tous les mois, le quatrième vendredi du mois, à Paris et en province bien sûr, dans plusieurs villes. Donc il y a le Gard, il y a le Mans, Lille, Lyon, Montpellier, Paris et Rouen. Voilà.
C'est des actions qui consistent à barbouiller des grands panneaux 4x3.
Oui, voilà. En général, ce sont c'est souvent même, dans tous les cas, jusqu'à maintenant, ce sont des 4x3. Donc, on a une méthodologie. Donc, on cherche à cibler principalement ce type de panneaux, dans la mesure du possible, des panneaux éclairés, des roulants, pour aussi dénoncer un petit peu le gaspillage énergétique et donc tout ce qui s'ensuit en fait, hein, sur la problématique publicitaire.
Et l'un de vos buts, c'est d'arriver à la limitation des affiches à des panneaux de 50 par 70 centimètres.
Voilà, tout à fait. Donc on réclame une réduction à ce format-là, donc 50 par 70, qui est déjà l'affichage légal pour les associations, pour les informations municipales, en fait, dans toutes les villes. On voudrait que la publicité se plie à ce format, qui est le format d'usage, et on ne voudrait pas qu'il y ait des passe-droits pour les gens qui ont des intérêts soi-disant supérieurs, mais qui ont surtout des moyens en termes d'argent, on va dire, quoi, hein, de s'approprier l'espace public. Voilà. Et donc, oui, on réclame aussi une contrainte de densité, puisqu'en fait, on voudrait que cet affichage réponde aussi, soit indexé en tout cas sur le nombre d'habitants par quartier dans une ville. Donc pour que encore une fois l'impact soit limité et raisonnable.
Et donc la dernière action qui a eu lieu, c'était le 29 septembre.
Voilà.
Et donc que s'est-il passé pour qu'on vous demande à tous les 7, puisque vous étiez 7 à barbouiller les affiches au Trocadéro.
Tout à fait.
Pour qu'on vous demande votre ADN, en fait. Qu'est-ce qui fait
Alors, dans le cadre de l'interpellation qui est classique, hein, je dirais, puisque bon, la procédure, c'est d'emmener les gens au poste, où effectivement, on procède à un contrôle d'identité et un questionnement plus ou moins serré de l'individu. Dans ce cadre-là, l'officier de police en fait demande de manière tout à fait anodine, soi-disant, si la personne est prête à se plier ou non à un contrôle ADN. Et bon, nous avons répondu non de manière de manière non concertée en fait. Mmh. Hein, on pensait pas du tout qu'on serait confronté à ce type de problème. Mais effectivement, on a en tant qu'individu, on a tous une sensibilité de militants par rapport à ça. Donc effectivement, la réponse a été catégorique. Ça a été non pour les 7 interpellés. Donc effectivement, on vous rappelle dans ce cadre-là que vous risquez 15 000 euros et un an d'emprisonnement. Donc par rapport à ce que disait Benjamin, effectivement, on a déjà un décalage entre ce qui est annoncé, si j'ai bien compris, et ce qu'il vit vraiment, puisque lui, il en est à 500 euros d'amende. Sur la condamnation.
Mais avec la menace que ça se répète indéfiniment.
Voilà.
On comprend bien. Enfin,
oui, avec la menace que ça se répète indéfiniment. Et a priori, aujourd'hui, à Douai, donc, où Bernard Coquel, qui était un autre copain de la Confédération paysanne, a donc a priori eu une condamnation à hauteur de 500 euros. Donc a priori, effectivement, les tribunaux sont en train de s'indexer, on va dire, sur cette peine-là.
Mmh. Oui, c'est intéressant de voir que enfin c'est intéressant. C'est triste et c'est encourageant de voir à la fois que effectivement la justice prend quand même en considération tous les aspects politiques, associatifs qui peuvent rentrer en, en ligne de compte. Et le fait inquiétant, effectivement, c'est que le, ça, ça peut être ad vitam aeternam, quoi. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, combien de temps les gens vont être poursuivis, combien de temps, parce que là, on rentre vraiment dans une logique de harcèlement. Donc, évidemment, on souhaite que ça s'arrête et que Benjamin ne soit pas plus inquiété que ça, ainsi que son collègue. Bon, après, je pense que l'avenir nous le dira, quoi.
Vous, vous en êtes où, là, des procédures? Il y a, on vous a déjà, on va vous poursuivre, ou on vous a signifié qu'on allait vous poursuivre? Vous en...
Alors, personnellement, moi, je suis au courant de rien du tout. C'est-à-dire qu'on nous a, on nous a rien signifié. On a été prévenu de rien du tout. Je pense que mes collègues sont dans le même cas que moi. Personne n'a fait état ou ne mentionne une quelconque nouvelle par rapport à ça. Donc bon, on attend en fait. Hein, mais on est déjà dans une posture, on va dire, de résistance, comme le soulignait Benjamin, c'est-à-dire que effectivement, on sait à quoi s'en tenir. Et je pense que bon, c'est un fait. La vie de militant est faite aussi d'épreuves, donc c'est des épreuves que pas que l'on souhaite forcément, mais que l'on attend le plus sereinement possible, puisqu'il s'agit quand même de défendre certaines idées ou certaines valeurs.
Et donc lors de cette action, il y avait des dizaines aussi de sympathisants et même des élus. Donc ça,
oui.
Les flics auraient pu considérer qu'il s'agit d'une manifestation politique classique presque.
Oui.
Je sais pas. Enfin, ils sont intervenus de façon virulente ou.
Mais il est c'est-à-dire que la police est au fait un petit peu de nos activités, hein, puisqu'il y a quand même des gens qui se renseignent sur ce qu'on fait. Donc on n'est pas réputé violent, heureusement. Donc c'est pas du tout la ligne qu'on défend, mais au contraire, hein, puisqu'on est partisan de l'action non violente et on fait de la désobéissance civile de manière assumée et de manière systématique, puisque c'est quand même une tactique d'usure, une tactique de long terme. Donc au niveau de la police, il y a pas de problème. On est perçu comme, je pense, comme des militants qui veulent se faire entendre. Je peux simplement vous dire que la police est pas spécialement désagréable. On a même des remarques surprenantes qui nous viennent parfois de policiers qui nous disent comprendre notre action et notre revendication. Voilà. Je peux pas vous en dire plus parce que après, bien sûr, ça.
Ça va les rendre sympathiques.
Voilà. Faut pas trop non plus.
En tout cas, ça a tendance à prouver qu'il y a une espèce de banalisation de cette demande dans les commissariats de police vis-à-vis du fichage ADN pour des actions qui effectivement sont pas particulièrement violentes. Tu l'as dit. Donc, c'est, si je me souviens bien, c'est la loi Sarkozy, la loi antiterroriste de Sarkozy, qui a étendu le fichage du FNAEG. Donc le FNAEG, c'est le fichier national des empreintes génétiques, qui au début donc était un fichage pour les crimes de sang, les délits un peu durs,
un caractère sexuel.
Et aujourd'hui, ça passe à un fichage systématique pour des gens qui s'attaquent à la propriété privée, notamment.
Tout à fait.
Mais en fait, il y avait déjà eu sous Jospin une aggravation. Donc là, au départ, comme vous l'avez dit, ça concernait les crimes type Guy Georges, hein, le tueur en série et tout. Je crois que c'est le fait divers qui a popularisé chez les flics ce fichier. Il y a une loi Vaillant ensuite, donc la loi dite de sécurité quotidienne sous Jospin, donc en 2001, qui l'élargit aux atteintes volontaires à la vie de la personne, aux actes de terrorisme, aux atteintes aux biens accompagnés de violence, destruction, dégradation par explosif ou incendie. Et il y a un pas suivant, donc c'est la loi Sarkozy de sécurité intérieure du 18 mars 2003. Et là, les infractions les plus banales sont introduites, vol simple, dégradation, tag, arrachage de culture, etc. Mmh. En fait,
Peut-être pour terminer, parce qu'on est proche de 17h, est-ce qu'on peut vous joindre quelque part par rapport à des éventuelles actions de soutien vis-à-vis des déboulonneurs?
Oui, bien sûr. Alors, il y a le site des déboulonneurs, hein. C'est donc www.desboulonneurs.org. Où vous pouvez avoir toutes les informations utiles pour les dates des futures actions, pour savoir ce qui se passe un petit peu dans les différents collectifs, donc sur les différentes villes qui participent à l'action. Donc il y a des photos, il y a du texte, il y a un manifeste, il y a diverses revendications. Peut-être citer la prochaine action qui aura lieu le 28 octobre. À 15h précises, donc à la sortie du métro quai de la Rapée. Voilà, c'est sur la ligne 5 dans le 12e arrondissement.
C'était les Amis d'Orwell. Dans 15 jours, ce sera. On traitera du flicage, fichage, etc. dans le domaine médical. Bon 15 jours à tous.
Quand nous en serons au temps des cerises, des guerres aux signoles, des merles moqueurs seront tous en fête.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Des oreilles avec des trous dedans.
Des fusils molles pour fouler tout.
Vous êtes sur Radio Libertaire et sur Radio Bazar Naum.
Et vous allez écouter de la musique.
Voilà. Et c'est l'émission 64.
Alors la semaine dernière, nous avions un thème, celui des assassins. Cette semaine, pas de thème. Donc on va vous passer ce qui nous passe par la tête.
Voilà, donc plutôt de la bonne musique.
Plutôt de la bonne musique.
Et dans l'ensemble, ouais. Je vais embrayer direct avec une production d'un nouveau label, assez confidentiel, de Macon, qui s'appelle 12 Productions, et qui fait dans le jazz actuel, les musiques improvisées. Je n'en dis pas plus, on écoute ça tout de suite, vous allez voir, ça dépote pas mal.